Chapitre 36. Le Grax a définitivement pété les plombs. Après avoir enfermé ma mère dans la buanderie, il nous a menacés, moi et Théo, avec son trident, avant de s'asseoir dans le fauteuil devant la baie vitrée et d'y rester sans bouger jusqu'au soir. J'ai vérifié à deux reprises qu'il dormait avant d'amener des couvertures et de la nourriture à ma mère. Elle m'a semblé à peu près en forme, même si elle n'est pas trop couverte et qu'il règne un froid de canard dans la buanderie. J'avais peur qu'elle se soit cassée quelque chose quand le Grax l'a traînée par les cheveux sur le carrelage de la grande pièce. On se serait cru revenu des milliers ou des millions, je sais jamais, avec ces fichues périodes préhistoriques, d'années en arrière, du temps des Cro-Magnons. D'ailleurs, je crois finalement que le Grax est un homme préhistorique, qui a échoué personne ne sait comment au XXIe siècle. Je vois pas d'autre explication à son comportement. On peut même pas parler à son propos d'instinct animal, parce que l'animal n'agit jamais par pure cruauté, quoique le chat, lorsqu'il s'amuse avec une souris, semble y prendre beaucoup de plaisir. C'est seulement un être inadapté, inexplicable, monstrueux. Je suis pas certaine qu'un spécialiste de la psychologie humaine serait capable de percer son mystère, même en connaissant toute son histoire, sa famille, ses parents, ses souffrances. Je me demande comment il a pu débarquer au feu de Dieu, par quel hasard il a croisé la route de la famille Loustalot, pourquoi les femmes se sont toutes entichées de lui. À cause de son côté préhistorique, justement. J'ai préparé le dîner, on a mangé, les yeux baissés sur nos assiettes, de peur de croiser le regard du Grax. Je me suis couché normalement pendant que Théo prenait son tour de garde et je me suis rapidement endormi. Un mouvement près de moi m'a réveillé. À l'odeur, j'ai immédiatement compris que le Grax se glissait dans mon lit. J'ai voulu le repousser de la main, je me suis rendu compte qu'il était complètement nu. Il poussait de drôles de ricanements. Les pointes effilées et dures de son trident m'ont piqué le dos. J'osais plus bouger, alors j'ai hurlé. Il a ri. Son rire, on aurait dit un bruit de pneus crevés ou de baignoire qui se débouche. Il a joué un long moment avec moi, comme un chat avec une souris, glissant son trident sous mes vêtements et le baladant sur mes seins, sur mon ventre, sur mes fesses. Je me suis mise à trembler et à pleurer comme une conne. Paraît que c'est une réaction de fille. Vraiment, la dernière chose à faire. Les larmes et autres manifestations de terreur ne parvenaient qu'à exciter sa férocité. De temps à autre, il se collait contre moi et frottait son corps contre le mien. Mais jamais il a essayé de me violer. Soit parce qu'il n'en avait pas envie, soit parce qu'il ne peut plus. Il m'a retourné sur le dos et m'a posé le trident sur la gorge. J'ai cru qu'il allait l'enfoncer dans mon cou. Et à nouveau, j'ai hurlé. Enfin, j'ai eu l'impression qu'un cri jaillissait de mon ventre. Un bruit mat a retenti, aussitôt suivi d'un cri étouffé. La pression du trident s'est relâchée sur mon cou. J'ai entendu la voix du microbe. « Rhabille-toi, faut se sauver avant qu'il reprenne ses esprits !» Le Grax n'était pas tout à fait assommé. On l'entendait gémir. J'ai sauté du lit et passé mes fringues à toute vitesse. « On se tire où ?» Le microbe a allumé sa lampe. Il était habillé comme pour aller dehors. Je voyais que ses yeux par la fente de son passe-montagne. Il tenait encore le bout de bois avec lequel il avait cogné le crâne du Grax. J'ai aperçu dans le halo de la lampe le corps nu et maigre de Jim recroquevillé sur le sol, du sang sur la joue. Son trident gisait un peu plus loin. « On va dehors ?» j'ai encore demandé. « Va délivrer maman !» a répondu Théo. « Et après, prenez des réserves de nourriture. Moi, je vais chercher les fouines, l'arc et les flèches dans la cave. Rendez-vous dans le couloir des chambres. »« Théo, tu sais ce que tu... Fais juste ce que je te dis. »« D'accord. » J'ai mis mon bonnet péruvien, mes écharpes, mes gants, ma doudoune, ma lampe. Et je suis allé ouvrir la porte de la buanderie. Ma mère était déjà levée, morte d'inquiétude, réveillée par mes hurlements. Je lui ai raconté rapidement ce qui se passait. On a foncé dans la cuisine. Elle a ramassé au passage ses deux grosses vestes de laine, son bonnet, ses gants, sans accorder un regard au Grax, toujours prostré et gémissant sur le carrelage. Nous aurions sans doute pu l'achever à ce moment-là, mais nous n'y avons pas songé, comme si nous avions admis être définitivement incapables de le tuer. Nous avons entassé de la nourriture et deux bouteilles d'eau dans un sac en toile, et nous sommes allés attendre Théo dans le couloir. Il est arrivé au bout de quelques instants, avec son arc, ses flèches et la cage des fouines qui peinait à porter seule. « Pourquoi est-ce que tu t'encombres de cette cage ?» a demandé ma mère. « Elle est lourde. »« Pas question que je les abandonne. » il a répondu. Son air buté montrait qu'il ne transigerait pas. Les fouines restaient parfaitement immobiles. Et, n'était-ce les légères palpitations de leurs flancs, on aurait pu les croire mortes. « Où veux-tu qu'on aille ?» il a montré le plafond. « Là-haut. »« Mais pourquoi ?» il a interrompu ma mère d'un geste impatient de la main. « Je vous expliquerai après. » Il s'est dirigé vers sa chambre. Je l'ai aidé à porter sa cage en fer. Une fois dans la pièce, il a fermé sa porte à clé. Puis le rayon de sa lampe s'est promené sur le plafond en lambris jusqu'au coin de deux murs, sur une sorte de carré dont on discernait à peine les côtés. « Continue de l'éclairer !» il m'a dit. J'ai braqué le rayon de ma lampe sur le coin du plafond. Il a sorti d'un de ses placards une vieille échelle en aluminium dont il a déplié les deux parties pour les accoter contre un mur juste sous le carré. Ses gestes étaient rapides, précis, sûrs, comme s'il s'était longuement entraîné. Il a gravi les barreaux de l'échelle, posé les mains au milieu du carré et exercé une poussée continue jusqu'à ce que le panneau de bois se soulève et dévoile une trappe. Il nous a demandé de lui passer la cage, le sac de vivres, l'arc, les flèches, qu'il a hissé dans le grenier avant de se faufiler à son tour par l'ouverture. Nous l'avons rejoint dans les combles. Il a tiré l'échelle et refermé la trappe. Les cris de rage du Grax et le fracas d'objets renversés, brisés, ont transpercé le silence. Nous nous sommes assis sur les panneaux de laine de roche et avons tranquillement attendu que le monstre se calme et que les battements de nos cœurs s'apaisent. Puis, le microbe nous a dit de le suivre en mettant exactement nos pas dans les siens. Un froid intense, épais, s'était installé dans les greniers. Les fouines ne remuaient toujours pas. Théo a soulevé le coin d'un panneau de laine de roche et a désigné une fente entre deux chevrons par où s'immisçait une faible lumière ambrée. Il nous a invités à jeter un coup d'œil par la fissure. J'ai été surprise de voir la grande salle, la table où nous prenions nos repas, le fauteuil devant la baie vitrée, et le Grax, toujours nu, debout près du poêle, brandissant son trident, psalmodiant, agité d'un mouvement régulier et saccadé qui évoquait une transe. « T'as d'autres points d'observation comme celui-là ?» a demandé ma mère à voix basse en relevant la tête. Théo a continué de glisser des morceaux de pain aux fouines entre les barreaux. Leurs yeux noirs brillaient dans la lumière de la lampe. « 5 ou 6 ?»« Et tu les as découverts quand ?»« Juste avant que papa et les autres isolent le grenier. » »« Et tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir ?»« Je devais les voir puisque je les ai vues. » J'avais la confirmation que Théo le rêveur avait recueilli un tas d'informations secrètes sur tous ceux qui avaient fait un séjour plus ou moins long dans le feu de Dieu. Il mérite bien son surnom de microbe. Minuscule, en apparence inoffensif, capable de s'inviter n'importe où, doté d'un grand pouvoir de nuisance. J'avais pas avec moi mon journal. Le vrai. J'étais pas sûr, à vrai dire, d'avoir envie d'écrire dans un endroit aussi sinistre. Puis, les circonstances ont fait que je l'ai retrouvé. Et j'en ai été très heureuse. J'ai compris à l'occasion que l'acte d'écrire m'était devenu aussi indispensable que respirer, boire ou manger. Nous nous sommes organisés. La laine de roche est désagréable au toucher, mais elle offre l'incontestable avantage d'isoler du froid. Le Grax nous a cherchés dans tous les recoins du feu de Dieu, enfin, dans tous ceux que nous avons la possibilité d'observer. Il semble parfois retrouver ses esprits. Il songe alors à remettre du bois dans les poêles, à se couvrir plus chaudement, à se préparer à manger, à surveiller la cour, ça lui passe pas. Puis, il entre subitement dans une nouvelle crise de démence, pendant laquelle il pousse des hurlements, menace la terre entière, renverse les objets, plante son trident dans le bois des portes ou le plâtre des murs, se déshabille, se transperce la peau avec la pointe d'un couteau, se barbouille avec son propre sang, s'installe parfois plus d'une heure dans la cabine de douche, se roule sur le carrelage avec des gémissements de nourrisson. Impressionnant à voir. Heureusement, il a toujours besoin de dormir. Par période de 2 ou 3 heures, soit directement sur le fauteuil, soit dans son lit. Nous en profitons alors pour faire nos courses. C'est le plus souvent Théo qui s'en charge. D'abord parce qu'il est le plus rapide, le plus exercé. Ensuite, parce qu'avec son arc et ses flèches, il a de quoi se défendre. Même si je doute que ses flèches puissent venir à bout du monstre d'en bas. Enfin, parce qu'il se porte volontaire tout le temps. Je le vois bien. Il essaie de prendre sa place d'homme, de mâle. Même s'il lui manque un peu de barbe et de muscles pour être tout à fait crédible dans le rôle. Tandis qu'un d'entre nous garde les yeux rivés sur le Grax endormi, les deux autres ouvrent la trappe et déploient l'échelle. Celui ou celle qui est chargé du ravitaillement dispose alors de 10 petites minutes pour se rendre dans la cuisine ou dans la cave et rapporter de quoi manger et boire. Comme on peut rien réchauffer là-haut, on est obligé de prendre des trucs qui se mangent froids. De la charcuterie, des fruits secs, des compotes, des confitures, du fromage pasteurisé, des galettes de riz, des biscottes, des gâteaux secs. Le Grax remarque les traces de nos incursions, qui le mettent dans des états de rage folle. Mais pour l'instant, il n'a pas deviné que nous étions planqués dans les greniers. Il pense sans doute que nous nous terrons quelque part dehors. Une supposition stupide, on tiendrait pas plus d'1 heure dans un tel froid. Lorsque mon tour est venu de descendre, j'ai prévu, malgré le peu de temps dont je disposais, malgré ma peur panique de tomber dans les pattes du monstre, de récupérer mon vrai journal et mes crayons dans le secrétaire de la chambre de mes parents. J'ai eu l'impression que chacun de mes pas, chacun de mes gestes, chacune de mes respirations, chacun des grincements de la porte de la chambre et de celle du secrétaire résonnait dans la maison comme des coups de tonnerre. J'ai cru que le Grax allait débouler d'un moment à l'autre, me bondir sur le dos et me clouer au sol comme un insecte avec son trident. Je te dis pas la trouille, mon lecteur des temps futurs. Présent pour toi, Déjà en descendant dans la cave, j'avais plongé dans un lac d'angoisse sans fond. De part et d'autre du rayon faiblissant de la lampe, le monde m'a semblé terriblement hostile, les rayonnages menaçants, les courants d'air effrayants, les plafonds écrasants, les sols mouvants, les murs vertigineux. J'ai même cru entendre des bruits de pas derrière moi. Je me suis souvenu des morsures du trident sur ma peau et mon cœur a failli s'échapper de ma poitrine. Une fois mon précieux cahier et mes crayons glissés dans le sac des courses, j'ai filé ventre à terre vers la chambre de Théo et sa trappe salvatrice. Ça en valait la peine. Je t'ai avec moi maintenant, mon cher journal, et je vais enfin pouvoir occuper les heures en noircissant tes pages. Le temps paraîtra moins long, moins morne. Tu n'écris pas sur le même cahier que d'habitude, m'a dit ma mère. Elle avait compris, je l'ai lu dans son regard, que je l'avais trimballé avec mon faux journal. J'écris sur le cahier que j'ai à ma disposition, j'ai répondu. Elle m'en a plus jamais reparlé. De même, et je ne sais pas d'où me vient cette certitude, elle essaiera plus de fourrer son nez dans mon intimité, son nez de fouine. À propos de fouine, nous nous sommes plaintes aux microbes, à voix basse toujours, de l'odeur de ses petites copines. Vous comprenez jamais rien, il a chuchoté. Si on les tue, ça veut dire qu'on sera jamais des gardiens de la vie. Il s'agit pas de les tuer, a dit maman, seulement de les éloigner un peu, à cause de l'odeur. Théo a accepté de les déplacer dans un recoin du grenier où il va régulièrement leur rendre visite. Nous nous habituons à nous déplacer dans l'obscurité pour économiser les piles des lampes. J'ai plus beaucoup de temps pour écrire. Je me sens crade, je crève d'envie de me laver, de me parfumer. Ma mère, toujours pratique, a demandé à Théo de rapporter des tampons hygiéniques au cas où nous aurions nos règles là-haut. Je reste souvent allongé, couvert de laine de roche, à l'écoute des sifflements du vent sur la toiture. Le pire est que je sais même pas où m'entraînent mes pensées. J'émerge de ces longues plongées en moi-même, comme si je ressortais du néant. Je me demande qui je suis, d'où je viens vraiment. J'ai l'impression très nette d'être autre chose que ce corps, autre chose que cet esprit, ces pensées, autre chose que cette fille qui s'appelle Zoé et qui flotte dans la terreur du Grax et de la vie. Il y a une réalité cachée, j'en suis certaine. Un monde dont j'ai pas encore trouvé l'accès. Un monde où l'on ne connaît pas la frayeur, la douleur, la cruauté, la tricherie, le malheur. Le monde, peut-être, exploré par Théo. Papa n'est plus très loin. Le chuchotement du microbe a résonné avec une force incroyable dans le silence du grenier. Il y a encore une bête qui le chasse. Quel genre de bête ? A demandé maman. On dirait un ours blanc. Il n'y a pas d'ours blanc dans nos régions. Théo s'est claquemuré dans le silence et s'est rendu près de la cage des fouines. Pendant quelques instants, les cris et les sifflements des captives ont répondu à ses murmures. « Tu devrais pas le couper comme ça », j'ai dit à ma mère. « J'ai rien dit de mal », elle a protesté. « Tu parles toujours avec ta logique d'adulte. J'en ai pas d'autre. Alors il serait temps d'en changer. C'est cette même logique qui a conduit le monde à la catastrophe. Ne dis pas n'importe quoi, Zoé. Il s'agit d'un cataclysme, d'un simple phénomène naturel. On ne sait pas quelle influence nous avons eue sur le phénomène. » Elle n'a pas répondu. Elle s'est interrompue et a rapproché son œil de la fente dans le plafond. « Il s'agite !» Elle s'est écartée pour me laisser regarder à mon tour. J'ai d'abord vu que la table jonchait de restes de repas, les chaises et le fauteuil près de la baie vitrée renversées, des fringues et des chaussures dispersées. Puis, le Grax est apparu, vêtu d'un seul t-shirt aux manches longues d'où s'échappaient ses jambes noueuses. Il gesticulait dans tous les sens sans proférer un son. Il trépignait. Il brandissait son trident vers le plafond, qui fixait régulièrement avec un sourire inquiétant.